إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى a dit dans son livre مسائل الجاهلية المسألة السادسة والأربعون مسبة الدهر كقولهم وما يهلكنا إلا الدهر. Le 46e précepte parmi les préceptes des gens de la Jahiliya, c'est le fait de dénigrer le temps, comme ils l'ont fait par leurs paroles, seul le temps nous fait périr. Il fait donc partie des préceptes des gens de la Jahiliya, le fait de croire que le temps est la cause des événements qui se produisent dans ce bas monde, et que le temps régit l'existence des gens. Donc de ce fait, lorsqu'ils étaient atteints par un malheur, ils l'attribuaient au temps, et ils dénigraient le temps à cause de cela. Donc tout d'abord, l'obligation pour le musulman, c'est d'attribuer les choses et les événements à leur créateur, qui n'est autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Quant au temps, ce n'est qu'une créature parmi les créatures d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il ne régit rien dans cet univers. Allah, subhanahu wa ta'ala, a donc blâmé les gens de la Jahiliya qui attribuaient les événements qui se produisent au temps comme si c'était lui qui régissait leur existence. Il a dit subhanahu wa ta'ala, وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرَ. Ils dirent, nous n'avons que notre vie d'ici-bas. Nous mourons et nous vivons, et seul le temps nous fait périr. Donc en réalité, cette croyance, c'est un reniement de la vie de l'au-delà, et un reniement de la résurrection. En effet, ils ont dit, nous n'avons que notre vie d'ici-bas. Comme si la vie de l'homme, elle s'arrêtait à sa mort ici-bas, et qu'il n'y avait pas de résurrection et pas de vie dans l'au-delà. Nous mourons et nous vivons. C'est-à-dire, il y a des gens qui meurent, il y en a d'autres qui viennent au monde, et ainsi de suite. Et les gens s'alternent dans ce bas monde. Et ils pensent que cela est le cours naturel de la vie, et qu'il n'y a rien après cela. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرَ. Et seul le temps nous fait périr. Donc, ils attribuent la mort à quoi? Ils attribuent la mort au temps. À l'alternance des jours et des nuits, des semaines, des mois et des années. Et ils pensent que c'est la seule chose qui est la cause de leur mort. Ils ne reconnaissaient pas les termes qui ont été fixés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne reconnaissaient pas l'ange de la mort qui retire les âmes des gens lorsque leur terme est venu. Donc cette croyance, elle est basée sur le reniement de la résurrection. À cause de cela, lorsqu'un malheur leur arrivait ici-bas, ils insultaient le temps. Ils insultaient le moment où ce malheur s'est produit, le jour, le mois ou l'année, et ainsi de suite. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est opposé à eux en cela. Et il nous a interdit d'injurier le temps. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, n'injuriez pas le temps, car Allah est le temps. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. C'est-à-dire qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé le temps. Et tout ce qui se passe dans ce temps, dans ces heures, ces jours, ces semaines, ces mois et ces années, tout cela a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala et a été prédestiné. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le hadith al-Qudsi, rapporté également par al-Bukhari et Muslim rahimahum Allah ta'ala, يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. L'enfant d'Adam me porte atteinte ou m'offense. Il injuriait le temps, alors que c'est moi le temps. Ceci est entre mes mains, et c'est moi qui fais succéder la nuit et le jour. Donc on voit à travers ce hadith que lorsque la personne injurie le temps, cela revient à injurier le créateur du temps, qui n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une forme d'offense envers le Seigneur de l'univers. Car si la personne injurie le temps, qu'elle injurie un jour, un mois ou une année, en réalité, son blâme, il s'adresse à qui? Son blâme, il s'adresse à celui qui a créé ce temps, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. car c'est lui qui dirige l'univers. C'est lui qui a prédestiné ces choses et c'est lui qui les a créées. Que ce soit le bien, les choses heureuses qui atteignent l'homme ici-bas, ou que ce soit les calamités. Tout a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au temps, il ne régit rien dans cela, mais ce n'est qu'une créature parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'injurier le temps, en ayant la croyance et la conviction que c'est le temps qui régit les événements, et que c'est lui qui transforme le bien en mal ou le mal en bien, alors ceci est du polythéisme majeur dont l'auteur sort de la religion de l'islam. Car en réalité, celui qui croit cela, cela revient à croire qu'il y a un autre créateur avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui crée les événements qui se produisent durant les jours, les mois ou les années. Toutefois, si la personne injurie le temps, en ayant la conviction que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les événements qui se passent durant ce temps, mais qui injurie le temps, car c'est en celui-ci qu'il s'est produit un événement qu'il réprouve, alors celui-ci, il a commis un acte interdit, qui est un égarement évident, mais son auteur ne sort pas de la religion de l'islam, car il n'a pas injurié Allah subhanahu wa ta'ala directement. Toutefois, il a commis un grave péché. Il a porté atteinte au Seigneur de l'univers. Et méditez sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith al-Qudsi. Yu'dhin ibn Adam. L'enfant d'Adam me porte atteinte. Ou l'enfant d'Adam m'offense. On tire de cela que l'offense, elle est différente de la nuisance. Il se peut que l'homme, il soit offensé par certaines paroles mauvaises qu'il entend, que ces paroles portent atteinte à sa personne. Toutefois, ces paroles, elles ne lui nuisent point. Et c'est à ce sujet qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son livre, dans Surat Ali Imran, au sujet des gens du livre, « لَا يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذَا » Ils ne vous nuiront point, mais vous porteront seulement atteinte. C'est-à-dire, avec leur langue, par leurs paroles, ils vous porteront atteinte, mais cela ne vous nuit point. Ce sont seulement des offenses. Car l'homme, il ne peut être à l'abri des offenses et des mauvaises paroles qui sont prononcées à son encontre par ses ennemis. Car les ennemis, comme vous le savez, ils ont une langue par laquelle ils vont chercher à nuire à celui qu'ils détestent. Ils vont donc lui porter atteinte, ils vont l'offenser, porter atteinte à son honneur, le dénigrer, se railler de lui, calomnier à son sujet, mentir, et ainsi de suite. Et il se peut que cela offense la personne. Cela lui porte atteinte. Toutefois, cela ne lui nuit en rien. Mais ses paroles, ses mensonges, ses calomnies, ses dénigrements, ils ne nuisent qu'à leur auteur. Même s'ils portent atteinte et qu'ils offensent la personne qui est visée par cela, cela ne lui nuit point. Mais cela nuit à leur auteur car c'est eux qui auront à rendre compte de ces paroles devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour résumer ce point, il est obligatoire pour les musulmans de prendre garde à ne pas injurier le temps. Et lorsqu'un malheur te touche, que tu es éprouvé, ce que tu dois faire, ce n'est pas insulter le temps, insulter ce jour, insulter la vie, insulter ce mois ou cette année, mais tu dois te remettre en question. Si un malheur t'atteint, remets-toi en question. Rappelle-toi la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit dans son noble livre « وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ » Et aucun malheur ne vous atteint si ce n'est à cause de ce que vos mains ont commis. À cause de tes péchés, à cause de tes mauvaises actions, tu es touché par certains malheurs. Donc, lorsque tu es touché par la maladie, lorsque tu es touché par une épreuve, par des difficultés, la première chose que tu dois faire, c'est de te remettre en question. Penser à tes péchés, te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, revenir à lui en lui obéissant et en délaissant les interdits. Donc la personne, elle se blâme elle-même, elle se remet en question et elle n'injurie pas le temps qui n'en rien responsable des calamités qui lui arrivent. Mais ces calamités, elles sont la conséquence de tes œuvres et de tes péchés. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés, et ce de par sa sagesse et son équité. Ensuite, le cheikh, il dit, rahimahullah, Al-mas'alatu s-sabi'atu wal-arba'un, idafatu ni'amillahi ila ghayrihi, ka qawlihi, ya'rifuna ni'matallahi, thumma yunkirunaha. Le 47e précepte, parmi les préceptes de la jahiliya, c'est le fait d'attribuer les bienfaits d'Allah à autre que lui. Comme il le dit dans sa parole, subhanahu wa ta'ala, selon le sens rapproché, Ils reconnaissent le bienfait d'Allah, puis ils le renient. Donc le fait d'attribuer les bienfaits à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, cela relève du polythéisme et de la mécréance. Et cela fait partie des œuvres des gens de la jahiliya, comme vous venez d'en entendre dans le verset. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ » Ils reconnaissent le bienfait d'Allah, puis ils le renient, et la plupart d'entre eux sont ingrats. Ils font preuve d'ingratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala, et ce, en attribuant ses bienfaits autres que lui. Il est rapporté au sujet de ce verset deux explications. Le premier sens, c'est que ils connaissaient le messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils reconnaissaient son message, mais ils le reniaient, et ce par orgueil. Alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils savaient qu'il est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 33 de sourate Al-An'am, قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Nous savons qu'en vérité, ce qu'ils disent te chagrine. Or, ils ne croient pas vraiment que tu es un menteur. Mais ce sont les signes d'Allah que les injustes renient. C'est-à-dire qu'ils reconnaissaient le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala envers l'humanité par l'envoi d'un messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas de doute que ceci est le plus grand des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala accordé à l'humanité, leur envoyer un messager pour leur indiquer le droit chemin qui les mènera au paradis par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils ont mécru en ce messager et se sont opposés à lui, et ce, à cause de leur orgueil et leur rejet de la vérité. Par orgueil, ils se sont opposés à lui et ont refusé de le croire et l'ont traité de menteur, alors que fond de même ils savaient qu'il était bel et bien le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceci est un des sens qui est mentionné dans l'explication de ce verset. L'autre sens est qu'ils reconnaissaient les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur avait accordés. Tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordés aux hommes. Mais malgré cela, ils les reniaient. C'est-à-dire qu'ils les attribuaient à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, en les attribuant à eux-mêmes, à leur force, à leur intelligence, à leur travail ou à leurs efforts. À titre d'exemple, comme il est mentionné dans le Coran, au sujet de Qarun, qu'est-ce qu'il a dit Qarun au sujet de ses trésors et ses richesses et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait accordé comme bienfait? Innama utituhu ala ilmin indi. C'est par une science que je possède que ceci m'a été accordé. C'est-à-dire tout cela, tous ces bienfaits, c'est par ma science, par mon expérience, par mon savoir que je l'ai obtenu. Il a donc renié le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci n'est pas spécifique à Qarun, mais ceci est fréquent chez l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala a même mentionné que l'homme, de manière générale, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde un bienfait, qu'est-ce qu'il dit? Je le mérite. Je mérite cela. Ceci est mon droit. Comme si cela ne provenait pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il attribue donc ce bien qu'il obtient et dont Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait grâce. Il l'attribue à sa propre personne. Comme si cela était son dû, grâce à ses efforts, grâce à son intelligence ou à sa force et ainsi de suite. Sans reconnaître que ceci est une grâce d'Allah et une miséricorde de la part de son Seigneur. Ou alors, parmi les choses courantes chez les gens, en attribuant les bienfaits à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, l'erreur de langage que l'on entend parfois de certaines personnes qui disent « Ah, s'il n'y avait pas un tel, je ne sais pas ce que je serais devenu. Ou s'il n'y avait pas un tel, je ne m'en serais pas sorti. » Et ainsi de suite, parmi les formes d'attribution des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala à autre que lui. Donc l'obligation pour le musulman vis-à-vis des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordés, tout d'abord c'est de les attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir la ferme conviction que ces bienfaits ne proviennent de nul autre que lui. L'ensemble des bienfaits, ta santé, ta vue, ton ouïe, ta force, tes bras, tes jambes et ainsi de suite. Et avant cela, le bienfait de l'islam, le bienfait du suivi de la sunna, le bienfait de la raison. Et ainsi de suite parmi les nombreux bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés. Il est obligatoire pour nous d'être conscients que ceci est une grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordée. Ce n'est pas dû à nos efforts personnels ou à notre intelligence. Non, ce sont seulement des bienfaits provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est obligatoire pour nous de reconnaître cela dans nos cœurs. et de faire preuve de reconnaissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits. Dans notre cœur, en reconnaissant que ses bienfaits proviennent de lui. Avec notre langue, en louant Allah subhanahu wa ta'ala, en le remerciant pour ses bienfaits. Et avec notre corps, en utilisant ses bienfaits dans son obéissance subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas négliger cela. Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé le bienfait de la vue. Utilise cette vue d'une manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Telle est la manière d'être reconnaissant. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a fait grâce du bienfait de l'ouïe. Utilise cette ouïe dans ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Écoute des choses qui plaisent à Allah, écoute le Coran, écoute des hadiths prophétiques, des cours bénéfiques, et ainsi de suite. Et écarte-toi de l'écoute de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Écarte-toi du regard de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit de regarder. Et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé la santé. Utilise cette santé dans son obéissance. Tu seras ainsi reconnaissant envers ton Seigneur. Il fait donc partie des principes des gens de la Jahiliya qu'ils attribuaient les bienfaits à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'islam a aboli cela et a ordonné aux musulmans d'attribuer les bienfaits à Allah subhanahu wa ta'ala et d'être reconnaissant envers lui pour cela. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a dit: Al-mas'alatu thaminatu wal-arba'un, al-kufru bi-ayatillah. Le 48e précepte parmi les préceptes des gens de la Jahiliya, c'est la mécréance au signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait donc partie des préceptes des gens de la Jahiliya de mécroire au signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu sur ses messagers, comme la Torah, l'Évangile, le Zabur et le Coran, et autres parmi les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélés à ses messagers. Ils ne croyaient pas en ces signes. Ils ne croyaient pas aux versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a certes adressé une menace sévère à ceux qui mécroient en ces signes. Il a dit subhanahu wa ta'ala: Inna alladhina kadhabu bi ayatina wa istakbaru anha la tuftahu lahum abwabu as-samaa. Ceux qui démentent nos signes et s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. C'est-à-dire lors de la mort, lorsque leur âme leur sera retirée et qu'elle sera élevée vers le ciel, alors on ne leur autorisera pas à monter et l'accès leur sera refusé. Donc les mécréants, ils démentent et renient les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils s'y opposent avec leur raison corrompue ou des ambiguïtés erronées. Et telle est la situation de toute personne qui dément un des signes parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme un verset du livre d'Allah ou encore un hadith authentique parmi les hadiths rapportés authentiquement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car les hadiths aussi, ils font partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. La sunna, elle a été révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui dément et traite de mensonge certains hadiths authentiques, comme le font certaines personnes prétendues cultivées parmi les penseurs ou les écrivains, qui vont rejeter avec leur raison corrompue tout hadith qui n'est pas en accord avec leurs idéologies ou avec leurs passions, comme le font les rationalistes, ceux qui ont mis en avant leur raison et qui l'ont fait prévaloir au texte du livre et au texte de la sunna. Tout cela entre dans le fait de démentir et de traiter de mensonge les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'obligation pour le croyant, c'est de croire en l'ensemble des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir la certitude en leur véracité et de les mettre en pratique, car ils sont la vérité absolue qui n'est touchée en aucun cas par le faux. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son noble livre: « La yatihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfih » Tanzilum min hakim hamid. Le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant ni par derrière. C'est une révélation d'un sage digne de louange. Ainsi sont les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les versets du Coran, les hadiths authentiques du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le faux ne les atteint d'aucune part, mais ils sont la vérité absolue, à laquelle il est obligatoire de n'avoir aucun doute à ce sujet, mais d'avoir la ferme conviction que ceci est la vérité qui a été révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a mentionné un autre précepte qui fait en réalité partie de celui-ci. Il a dit, rahimahullah, المسألة التاسعة والأربعون جحد بعضها. Le fait de rejeter certains de ces signes. C'est-à-dire de ne pas les rejeter dans leur totalité. Donc les gens de la Jahiliya, ils étaient divergents concernant le fait de démentir les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi eux, il y en avait qui les démentaient totalement et qui ne croyaient en aucun des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et en aucun de ses livres. Comme était la situation des polythéistes qui ne croyaient en aucun parmi les prophètes. Donc, d'autant plus, ils ne croyaient pas aux livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait révélé à ses messagers alayhim as-salatu wassalam. Et parmi les gens de la Jahiliya, il y en avait d'autres qui croyaient en certains livres et qui en démentaient d'autres. Comme les juifs et les chrétiens qui croyaient en leurs livres mais rejetaient les livres qui ont été révélés aux autres messagers. Les juifs ont prétendu croire en la Torah, mais ils ont mécru en l'évangile et ils ont mécru au Coran. Et les chrétiens ont prétendu croire en l'évangile, mais ils ont démenti le Coran. Et celui qui dément une part du livre, ou certains livres, tout en prétendant croire en une autre partie du livre, alors il est semblable à celui qui a démenti l'ensemble du livre. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son noble livre, أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Croyez-vous en une partie du livre, et vous en rejetez le reste? Ils ne croyaient qu'en ce qui était en accord avec leur passion. Et tout ce qui s'opposait avec leur passion, ils le démentaient et le rejetaient. Donc cela, il ne leur rend rien profitable, le fait de croire en une partie du livre, alors qu'ils rejettent une autre partie. Même si la personne ne rejette qu'un seul verset du Coran, ou un seul mot du Coran, le fait qu'il croit en le reste ne lui sera donc en aucun cas profitable. Il est obligatoire pour le musulman de croire en l'ensemble du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de croire en l'ensemble de la sunna authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais celui qui rejette un verset, c'est comme s'il avait rejeté l'ensemble du livre. Il faut donc prendre garde à cela, car, comme vous le savez, aujourd'hui, les gens qui font prédominer leur raison, ils sont nombreux, et ils appellent au rejet de certaines lois de l'islam, de certains versets, de certains hadiths, sous prétexte de s'adapter à l'espace et au temps, ils vont altérer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sous prétexte d'évoluer avec l'espace et le temps. Alors, on va rejeter un hadith, on va rejeter un verset, ou alors on va en déformer le sens, tout cela dans le but d'écarter les gens de la religion authentique, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, telle que l'a pratiquée son messager sallallahu alayhi wa sallam, et telle qu'il l'a enseignée à ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Ensuite, l'auteur, rahimahullahu ta'ala, il dit, « Al-mas'alatul khamsun, qawluhum » ما أنزل الله على بشر من شيء. Le cinquantième précepte parmi les préceptes de la Jahiliya, c'est leur parole, Allah n'a rien fait descendre sur un humain. Donc cela vient nous détailler les deux préceptes qu'il vient de nous mentionner. Le fait de renier les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de renier ses livres et de les démentir. Et parmi les manières qu'ils ont eues de démentir ses livres, ils ont dit, Allah n'a rien fait descendre sur un humain. Donc, ils ont rejeté en cela les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est la parole des juifs, qui ont mécru en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, Allah n'a rien fait descendre sur un humain. Et en réalité, cette parole, elle revient à démentir l'ensemble des messages, et l'ensemble des révélations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui les a poussés à dire cette parole, c'est leur jalousie envers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donc répondu et a dit, « قل » من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. Dis, ô Mohammed, afin de leur répondre, qui a fait descendre le livre avec lequel est venu Moussa comme lumière et guide pour les gens? À partir du moment où vous reconnaissez que le livre avec lequel est venu Moussa, alayhi salam, il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que Moussa est un être humain, pourquoi dites-vous Allah n'a rien fait descendre sur un humain? Ceci est une contradiction de la part des juifs. Et ils ont été poussés à cela par leur jalousie envers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont démenti Muhammad, l'ont traité de menteur, ont mécru au livre qui lui a été révélé, et cela les a amenés en réalité à traiter de mensonge l'ensemble des messagers alayhi salatu wa sallam et l'ensemble des livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélés. Tout cela à cause de leur jalousie envers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voyez donc à travers cela le méfait de la jalousie.
me fait du hasad. Il peut mener une personne à la mécréance, wal'iyadhu billah. Celui qui est jaloux, qui envie les gens, qui réprouve le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé tel ou tel bienfait à telle ou telle personne. Celui-ci, sa jalousie, elle va le pousser à transgresser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, à dénigrer cette personne qu'il envie, à la rabaisser, la prendre en raillerie, et la dénigrer. À cause de quoi? À cause de la jalousie. Il réprouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait favorisé un de ses serviteurs. Il souhaiterait qu'il soit privé de ce bienfait. Alors il va tout faire pour le rabaisser, pour le mépriser, pour lui porter atteinte, quitte à mentir sur lui et à transgresser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut donc prendre garde et purifier nos cœurs de la jalousie. Ne pas envier tes frères et sœurs. Te réjouir lorsque tu vois un de tes frères ou une de tes sœurs qui a été favorisé, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé une science, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé une subsistance, ou autre parmi les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ses serviteurs. Tu te réjouis de cela, et tu ne dois pas envier tes frères et sœurs. Car c'est une forme d'opposition au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui envie, c'est comme s'il reprochait à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir accordé tel ou tel bienfait à tel serviteur. Donc le musulman, il doit purifier son cœur de l'envie, qui est un grave méfait qui peut avoir des conséquences néfastes. Donc, les juifs, ils ont prétendu qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'avait rien descendu à un être humain. Et les ont suivis en cela, al-Jahmiya, qui prétendent que le Coran ne provient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'il est créé, que c'est une créature parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est de la mécréance. De la même manière, ceux qui disent que la sunna n'est pas une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais que ce sont simplement des efforts de réflexion du messager sallallahu alayhi wa sallam. Comme le disent certains penseurs qui ont été éprouvés par leur raison corrompue, que la sunna et les jugements du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont semblables à un code civil qui était valable à son époque, mais qui n'est plus valable pour nous. Wal'iyadhu billah. Ceci est de la mécréance. Car la sunna, c'est la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne prenait ça rien sous l'effet de la passion. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, dans surat al-Najm, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation qui lui est inspirée. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son messager sallallahu alayhi wa sallam le Coran, mais il lui a aussi révélé la sunna. Ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala a dit: المسألة الحادية والخمسون قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر. Le 51e précepte parmi les préceptes des gens de la Jahiliya, c'est leur parole au sujet du Coran. Ceci n'est que la parole d'un être humain. Il fait donc partie des préceptes des gens de la Jahiliya, comme on l'a vu, de renier le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un livre à un humain. Donc par conséquence, ce livre qui est présent, qu'est-ce qu'ils ont dit à son sujet? Ceci est la parole d'un être humain. Ce n'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci fait partie des préceptes des gens de la Jahiliya. Et le Coran, comme vous le savez, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas créé. Allah subhanahu wa ta'ala a réellement prononcé ces paroles. Il les a révélées à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de l'ange Jibril alayhi salam. Et c'est réellement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrit le Coran comme étant sa parole dans plusieurs versets de son livre. Par exemple, il dit au verset 6 de surat al-Tawbah, « Hatta yasma'a kalam Allah » et ce afin qu'il écoute la parole d'Allah. Il dit subhanahu wa ta'ala au verset 15 de surat al-Fath, « Yuriduna an yubaddilu kalam Allah » ils veulent changer la parole d'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit ce livre comme étant sa parole. Il est venu dans le hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Quraysh m'ont empêché de transmettre la parole de mon Seigneur. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement attribué ses paroles à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est la croyance des gens de la sunna et du groupe, ceux qui suivent réellement le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils reconnaissent et croient que la parole est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que parmi ces paroles, il y a son livre, le Coran, qu'il a révélé à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et les polythéistes, en réalité, ils savaient que c'était la parole d'Allah, et que ce n'était pas la parole de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Car, si ce Coran était la parole de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, alors ils auraient été capables de venir avec un livre semblable. Car Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un homme comme eux. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un homme comme eux. Donc, si ce livre était sa parole, ils auraient été capables de l'imiter et de venir avec un livre semblable. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a mis au défi dans son livre. De venir avec un livre semblable, ou de venir avec 10 sourates semblables, ou même de venir ne serait-ce qu'avec une seule sourate semblable. Et ils ont été incapables de venir avec quoi que ce soit de semblable. Malgré leur mécréance, leur entêtement et leur désir de s'opposer à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas été capables de venir avec quelque chose de semblable. Donc, s'ils auraient été capables de venir ne serait-ce qu'avec une sourate semblable, ils se seraient empressés, mais ils en ont été incapables. Ceci nous prouve que ce livre est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et non la parole d'un être humain, ni la parole de Jibril alayhi salam, ni la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Quant à Jibril et Muhammad alayhi ma salatu wa salam, ils ont transmis ce livre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont transmis la parole de leur Seigneur. Mais cette parole, elle est attribuée à Allah subhanahu wa ta'ala et non pas au transmetteur. Et les mécréants, à cause de leur orgueil, ils disaient parfois que le Coran était le résultat de la sorcellerie. Ou parfois ils disaient que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait appris ce livre auprès des savants des gens du livre. Ils disaient diverses choses afin de rejeter ce livre qui venait d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tout cela nous montre leurs mensonges et leurs inventions qu'ils ont forgées au sujet de notre prophète et au sujet du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quiconque croit que le Coran est la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, croit que le Coran est la parole d'un être humain, alors sa parole est semblable à la parole des gens de la Jahiliya. Comme aujourd'hui le font les Jahmiya et les Mu'tazila, ainsi que leurs semblables, parmi ceux qui disent que le Coran n'est pas la parole d'Allah, mais que le Coran a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala, en Muhammad ou en Jibril, alayhi ma salatu wa salam, ou autres parmi les paroles erronées qu'ils prononcent et qui sont semblables aux paroles des gens de la Jahiliya. Et tout ceci est de la mécréance. Tout ceci relève de la mécréance majeure. Le musulman doit donc prendre garde et savoir que ceci fait partie des fondements de la croyance des gens de la Sunna. De croire que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il est incréé. Ce n'est pas une créature, mais c'est réellement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ceux qui ont suivi avec nous les cours, on avait vu ce sujet avec plus de détails lors de notre étude du livre Usul al-Sunnah, les fondements de la Sunna de l'imam al-Humaydi. On a également parlé de ce sujet lors de l'étude du livre La croyance de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Donc pour plus de détails sur cette question, vous pouvez revenir à ces deux cours qui sont présents sur le site annasiha.com. Mais ici on voit ces sujets simplement de manière globale, sans rentrer dans les détails car comme vous le voyez, les points mentionnés par l'auteur sont nombreux, et l'objectif est d'en prendre connaissance de manière générale, et ce afin de s'en écarter. Et il n'y a pas de doute que chacun de ces points mériterait d'être étudié de manière plus détaillée. Mais inshallah ta'ala, on reverra nombre de ces points lors de l'étude d'autres livres plus développés et plus détaillés, à l'exemple du livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid, de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, ou d'autres livres, incha'Allah ta'ala, si Allah nous le permet. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, incha'Allah, et on continuera la lecture de ce livre lors de notre prochain cours, lundi prochain, incha'Allah ta'ala. As-salallah subhanahu wa ta'ala, an yanfa'ana bima qulna, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi, wa salillahumma wa salim wa barik, ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum.